Chapitre 56. L'intelligence artificielle, l'accroissement des capacités humaines, la manipulation de la vie en éprouvette, la conquête de l'espace et l'immortalité, tels étaient les 5 grands thèmes promus par les mouvements transhumanistes. Audra était encore tout imprégnée des propos de la scientifique du laboratoire d'ADN. Rivée derrière son ordinateur, elle avait poursuivi ses investigations sur le sujet. Quel que soit le thème abordé, les GAFA revenaient systématiquement. Mark Zuckerberg, patron de Facebook, travaillait pour développer une interface cerveau-machine qui permettrait aux individus de communiquer sans parler. Elon Musk, visionnaire milliardaire, développait des implants pour accroître les capacités intellectuelles de l'homme. Larry Page, le cofondateur de Google, avait injecté des centaines de millions de dollars dans Calico, une société qui menait des recherches sur l'immortalité et dont le patron, Ray Kurzweil, transhumaniste pur et dur, était persuadé que l'homme de 1000 ans était déjà né. Ces gens-là n'étaient pas fous. Ils détenaient le pouvoir, l'argent. Et ils voulaient changer le monde grâce à leur propre laboratoire, financement et le développement d'une science parallèle. Ils créaient une espèce de biohacking à l'échelle planétaire, avec pignon sur rue, et comme l'avait écrit l'ange, on les laissait agir impunément. Breakout Labs, Calico, Meta. Que faisait-on précisément dans ces sociétés financées par les ultra-riches au sein desquelles les plus brillants cerveaux phosphoraient? Personne ne le savait. Aucune donnée ne filtrait. De véritables boîtes noires. Google et ses comparses ne se contentaient pas de rayonner dans la Silicon Valley. Via leurs filiales dédiées aux sciences, ces sociétés investissaient des centaines de millions de dollars dans les entreprises européennes de biotechnologie. On sentait leur souffle jusqu'à Paris, Nantes ou Grenoble. Audra releva les yeux lorsque Pascal s'éjecta de sa chaise après avoir raccroché son téléphone. Il enfila son blouson d'un geste et s'adressa aux deux femmes. Nicolas a besoin de moi. Je vais prévenir Franck et je file à Melun. Il n'en ajouta pas plus et disparut en coup de vent. Audra considéra Lucie, haussa les épaules et retourna à son écran. Grenoble, une véritable pépinière d'entreprises biotechnologiques. Quelques mois auparavant, un neurochirurgien réputé avait opéré là-bas le cerveau d'un tétraplégique pour qu'il puisse actionner par la pensée un exosquelette et ainsi remarcher. Le spécialiste se revendiquait proche du mouvement transhumaniste. Grâce à la science et à la technologie, un individu condamné au fauteuil roulant avait retrouvé la capacité de marcher. Était-il humain de l'en priver ? Ces individus se répandaient partout, dans des conférences, sur les radios, se regroupaient dans des associations comme celle d'Alric Sioblad. Ils dirigeaient des start-up, des services d'hôpitaux, étaient scientifiques, étudiants ou intellectuels et s'opposaient en permanence aux bioconservateurs, à l'Église et, de manière générale, à tous ceux qui vivaient dans le passé. Les débats étaient houleux. Les manifestations réelles, mais le discours était clair, plutôt pacifiste, et leurs démonstrations éblouissantes. Bref, rien en rapport avec la violence des actes d'une bande de dégénérés aux doigts coupés. Audra fit chou blanc. Ni les noms de Demonchaud ou de Chevalier ne ressortirent dans ses requêtes. Ses investigations sur les biohackers extrêmes ne donnèrent rien de concret. Les kits CRISPR-Cas9 se vendaient en masse dans le monde entier. Elle pataugeait. En fin d'après-midi, Charcot arriva dans la pièce, son téléphone portable entre les mains, comme s'il s'agissait du Saint Graal. Il ferma la porte et claqua des doigts pour solliciter l'attention des deux femmes. Lucie et Audra cessèrent leurs activités.
« Je suis en ligne avec le laboratoire de Bordeaux pour l'ADN, » expliqua-t-il.
Professeur Samson, je suis avec une partie de mon équipe. Nous vous écoutons. » Les deux flics se regroupèrent autour du téléphone de Charcot, qui avait mis le haut-parleur à fond.
« Très bien, »
fit la voix féminine.
« Nous avons donc réalisé les analyses pour lesquelles le laboratoire a été sollicité. Je vous rappelle que nous avons travaillé tout le week-end avec 4 sources distinctes. L'ADN du petit Lucas, celui du doigt féminin issu du bocal, celui d'Arnaud de Monchaux et celui du corps anonyme découvert dans l'Essonne en 2013. Vous m'entendez bien ?
Nous vous entendons.
Nous avons dans un premier temps vérifié s'il existait un lien de paternité entre Arnaud de Monchaux et Lucas. Je vous confirme qu'Arnaud de Monchaux n'est pas le père de l'enfant. De même, l'ADN du doigt féminin n'a rien donné. Il n'y a aucun lien biologique avec le bébé.
Charcot fit la grimace. Il avait attendu des réponses, mais pas celle-là. Le mystère continuait à planer autour des origines du môme.
« Bien reçu, » répliqua-t-il avec calme.
« En revanche, nous avons trouvé un lien génétique entre l'individu de 2013 et Lucas, »
fit la voix dans le haut-parleur.
« Nos résultats sont fiables à 99,99%. Il ne peut pas y avoir d'erreur, même si, je vous l'accorde, tout cela est extrêmement troublant. »
Un silence s'ensuivit. Les flics étaient suspendus à la voix, comme si elle allait leur annoncer la fin du monde. Ce qui, d'une certaine façon, fut le cas.
« Le lien entre l'ADN de Lucas et celui de la femme repêchée dans les temps est maternel. L'inconnue morte en 2013 dans l'Essonne est la mère de Lucas.